Il y a de l'agitation dans le studio encore là pour le début de la chronique de Luc Ferrandez. Luc est en train de saluer Bonhomme Carnaval qui s'en va, qui prend des selfies, donne des autographes, ramasse des numéros de téléphone, toujours très populaire. Voilà, Bonhomme qui est là. C'était l'émotion en studio, Luc.
C'est une pièce d'homme, hein?
C'est une pièce d'homme, c'est un colosse.
Tabarouette.
Si t'as un peu trop bu puis tu cherches le trouble, Bonhomme va venir te chercher par le fond de culotte, je pense.
Ouais,
t'as manché pour veiller tard.
Je pense, Luc, que oui.
De quoi tu nous parles dans cette chronique?
Ben, Marc Bibeault, aujourd'hui, c'est la journée Marc Bibeault.
Oui, parce que...
C'est un carnaval, Marc Bibeault.
Le carnaval Marc Bibeault qui dure depuis très longtemps. Marc Bibeault, faut le dire, qui était le grand argentier du Parti libéral du Québec sous Jean Charest. Et qui est dans les affidavits, hein, qui figure dans les affidavits qui ont été aujourd'hui rendus publics, c'était les soupçons, c'est encore les soupçons, sur lesquels agissaient les policiers de l'UPAC. Qu'est-ce que tu retiens de toute cette saga-là?
En fait, je retiens que j'en sais assez pour te poser des questions plutôt que de te donner des réponses, parce que dans ce domaine-là, tu en connais beaucoup plus que moi. Mais moi, j'ai été frappé quand même par un certain nombre d'éléments. Tu me diras si ce sont les mêmes que toi. Bon, premièrement, il n'a pas réussi à se faire entendre à la Cour suprême pour empêcher la divulgation des éléments de preuve que l'UPAC a assemblés contre lui. C'est un consortium de journalistes qui avait fait ça en 2016, La Presse, La Gazette, Québécois. Puis, on apprend pas mal de choses intéressantes en lisant la divulgation de cette preuve-là, éléments de preuve. Bon, premièrement, les entreprises qui ont témoigné, il y a plusieurs entreprises qui ont témoigné qu'ils donnaient un financement régulier et en bloc au parti. Ils utilisaient des prêtres noms. Et pas les moindres, hein, c'est des entreprises qui font affaire. Ben moi, j'ai fait affaire avec plusieurs de ces entreprises-là à la ville de Montréal. Là, quand on signait des contrats, c'était leur nom.
Les noms de compagnies, là, tu les reconnaissais?
Ah, ben oui, c'est les grosses compagnies du Québec, là. SNC-Lavalin, Dessau, BPR, RSW, Texul, Provence-Chérois, Associé Architecte, Infrabec, Simoplus. C'est des entreprises extrêmement actives. Alors, si ces entreprises-là, qui ont des batteries d'avocats, puis une certaine capacité à résister aux pressions, ont été obligées de donner, tout le monde a été obligé de donner. Moi, c'est ma conclusion. Ma deuxième conclusion, c'est on apprend que Marc Bibeault pouvait être menaçant quand il demandait à des contributions directes, verbalement, donne-moi 50 000, merci, tout de suite. Pas de justification, pas de promesse de contrat. C'est pas lié à un contrat, c'était pas un arrangement. On va faire attention, dans l'avenir, on va t'en donner, mais là, donne-moi tout de suite de l'argent.
Bien, écoute, ce qui est rapporté, c'est ça, c'est que t'as une certaine pression. Tu te dis, si je donne pas, est-ce que ça va me nuire? Puis ça, il y a des gens qui ont témoigné de ça. T'sais, on venait de voir, puis on disait ben faudrait contribuer au parti. Puis le message subliminal, c'est ça peut pas nuire.
Ça peut pas nuire, mais la faveur était pas directe. C'est pas quand il y a eu des affaires de fonctionnaires corrompus où le fonctionnaire a trafiqué l'appel d'offres, ou dans l'affaire de la SIQ, par exemple, où il y a eu des baux qui ont été signés à des valeurs supérieures au marché en échange de dons. Mais là, c'est « garde, tu me donnes de l'argent, puis je vais faire attention à toi plus tard », ça ressemble à la mafia.
Oui, moi, je retiens le témoignage de George Dick. George Dick, c'était un président de firme de génie qui a témoigné à la commission Charbonneau, et lui dit, moi, je ne connaissais pas ce monsieur-là, qui me contacte, qui me dit, écoutez, vous avez donné X, vous avez reçu tant de contrats de l'État, et puis faudrait donner. Là, le monsieur Dick, il dit, écoutez, moi, excusez-moi, là, je donne dans les comtés. Non, ça ne marche plus comme ça. Et lui, ce qu'il disait, c'était, monsieur Dick, il dit, à commission Charbonneau, c'est une forme, pour moi, de trafic d'influence.
Absolument.
Et à partir de là, ce qui est sorti aujourd'hui dans les affidavits, Luc, je te le dis, il y a des affaires là-dedans qui sont pas nouvelles, mais ça a le mérite de synthétiser tout ce qui est sorti pendant des années.
Oui. Puis, oui, bon, alors moi, j'ai pas lu les affidavits, là, j'ai lu les journaux, et j'ai été surpris, très surpris, d'apprendre une pratique que tu verrais plus jamais. C'est lorsqu'on dit qu'on demande à un employé du cabinet de transférer les documents du ministère des Transports à Marc Bibeault alors qu'il ne fait pas partie du gouvernement.
Il faisait même pas partie du parti. Ben il n'y avait pas de fonction officielle au Parti libéral. Tout le monde savait que c'était par lui que ça passait le cash.
Mais te rends-tu compte, là, pour qu'un ministre donne un ordre direct à un employé de cabinet, transfère le premièrement, le document, la fonction publique, c'est pas certain qu'elle veut le donner au ministre. D'habitude, ils te le font voir, ils te le font regarder. Tu as une copie qui est numérotée. Mais là, envoie copie à Marc Bibeault. Ça témoigne d'une absence de peur ou d'une absence de la croyance qu'il n'y aura pas de vérification. Et d'ailleurs, c'est assez difficile à vérifier parce que là, si tu as une copie en main, une copie électronique ou une copie papier, va porter ça à Marc Bibeault. Assez difficile, si la personne ne fait pas un témoignage, assez difficile de retrouver ça 3-4 ans après, là.
Oui, mais ça montre à quel point M. Bibeault en menait large au Parti libéral du Québec à l'époque. Tantôt, là, on a parlé, en début d'émission, on a parlé à Robert Benoît, qui est un ancien député. Lui, il a cessé d'être député en 2003. Il s'est pas présenté à l'élection où Jean Charest a été élu. Puis ce qu'il dit, c'est tout le monde savait que ça passait par lui. Et il dit, il raconte la rencontre qu'il a eue avec M. Bibeault. Et Bibeault lui dit avant l'élection, écoute, si tu veux te présenter, il faut que tu ramasses de l'argent. Et Robert Benoît lui dit, écoute, je vais te régler ça tout de suite. Moi, je ne me représente pas. Et la réponse de Marc Bibeault, selon Robert Benoît, c'est, oui, mais si tu veux qu'on te nomme quelque part...
Oh, tabarouette. T'as rendu compte? Ben, tu te rappelles que Charest avait fait le ménage quand il est arrivé après le Parti québécois. C'était le plus gros ménage de la fonction publique qu'il avait jamais eu. 1700 renvois de cadres supérieurs.
Et, je ne me rappelais pas de ça.
Oui, okay. 1700 personnes qui avaient été reçu une petite lettre. Vous ne faites plus partie des plans du gouvernement. Alors voilà. Tu rattaches le cercle là, en disant, après que tu sois été député, je te tiens encore. Je peux te donner des nominations à toi ou à tes proches.
Je parlais avec Luc Lavoie là, quand à l'émission de... Non, on avait invité Luc. Quand Jean Charest, ça a été annoncé qu'il est intéressé à se lancer à la succession de Andrew Scheer à la tête du Parti conservateur. Et moi je disais à Luc, t'es pas d'accord avec moi. Moi, je disais à Luc, chaque fois, si M. Charest se lance, chaque fois qu'il va aller en entrevue, au Québec en tout cas, va se faire poser des questions sur l'époque où il était chef du parti puis que le financement était assez immoral, merci. Luc, lui, dit, non, pas d'accord avec toi. Penses-tu que c'est une question qui entrait M. Charest?
Moi, j'en reviens pas que Luc t'ait répondu ça. Puis ça me fâche un peu. J'aime pas ça. J'aime pas ça que l'autre fois, il a fait une présentation publique, il était assis à côté de M. Bouchard, puis il évoquait...
Tu parles de Jean Charest.
Jean Charest, puis qu'il était applaudi par le Who's Who de Montréal, et on rapportait ça comme un homme d'une grande... en anglais, dit « savvy », donc très connaissant.
Une grande sagesse.
Ouais, c'est ça. Puis connaissant les us et coutumes des gouvernements, puis partageant son savoir et sa sagesse. Et ça me fâche. Tout le monde le savait. On n'a pas pu en faire des éléments de preuve. En tout cas, l'enquête Machuré n'est pas encore arrivée à terme. Mais tout le monde le savait. Alors, c'est quelle sorte de morale que ça prend pour dire, ben oui, il peut quand même se présenter à la tête du Parti conservateur. Ben oui, il peut quand même faire des conférences publiques. C'est quoi ça?
Mais Luc, il faut préciser une chose. Jean Charest n'a jamais été accusé au criminel. Okay? M. Bibeault non plus. Moi, je te dis, dans tout ce que j'ai entendu, je trouve qu'il y a une faute morale à l'époque. Puis, tu sais, M. Charest, s'il ignorait ce que Marc Bibeault faisait comme approche en financement, c'est une faute grave. S'il le savait, c'est une faute grave aussi. Mais t'as raison. Il y a quand même quelque chose... Il y a des questions qui se posent, je pense. Et si M. Charest se présente puis qu'il fait des entrevues, je veux pas être plate, là, mais il va s'en faire poser souvent des questions sur cette époque-là.
La minute qu'il va donner un contrat.
Non, mais avant même qu'il donne un contrat. Disons qu'il est candidat au leadership conservateur.
Il se fera jamais lâcher. Puis moi, si j'étais journaliste, je le lâcherais pas non plus. Mais justement, j'ai une autre question pour toi. Est-ce que tu penses que l'agenda, l'échéancier de la Cour suprême, évidemment pas la décision de la Cour suprême, là, mais l'échéancier de la Cour suprême, qui travaille là-dessus? Parce que là, ça arrive à point nommé. Là. Je veux dire, c'est aujourd'hui que la Cour suprême annonce qu'elle ne peut pas entendre la cause de Bibeault et donc que les documents vont être révélés. Puis Charest vient de donner sa candidature. Est-ce que ça marche dans les deux sens? Est-ce que, d'après toi, ça se peut que la Cour suprême ait dit « Ben là, il y a quand même urgence de prendre une décision sur ce cas-là. » Et à l'inverse, est-ce que ça se peut que Jean Charest se soit présenté parce qu'il savait que ce cas-là s'arrivait en Cour suprême?
Je sais pas. Écoute, moi, je travaille avec ce qu'on peut prouver. Ben, je travaille des fois avec des preuves circonstancielles. Ici, je pense pas que...
Non.
Alors, regarde, voici ce que je... Je vais te donner une théorie, OK?
OK.
Une théorie. Je pense que M. Charest, il est tanné que ce soit attaché à sa cheville, cette histoire-là, mm-hmm. Là, OK? L'enquête policière, etc. Je suis convaincu qu'il pense qu'il n'a rien à se reprocher. Et que ça fonctionne ou pas, sa campagne au leadership, juste de tâter la température de l'eau, juste de considérer de se lancer, ça envoie le message « j'ai rien à me reprocher ».
C'est ça. Je pense que c'est un message fort. Moi, je pense aussi que les gens savent pourquoi Bibeault ne s'est pas fait arrêter encore. T'sais, Bibeault a fait preuve d'une grande créativité. En 2016, quand l'Agence du revenu du Québec est venue dans les bureaux de Choc Béton pour obtenir des documents, et qu'après ça, Il a déclaré, mais au moment où vous êtes venu dans les bureaux, il y avait des avocats, il y avait des notaires dans les bureaux, donc vous n'aviez pas le droit de saisir des gens parce que ça met à mal la relation privilégiée d'un client avec ses avocats. Ouais. Hey, ça, là, il y a des avocats dans tous les bureaux. Là.
T'as raison, mais regarde, il a le droit de faire valoir ses droits. Et à la fin, la Cour suprême tranchera, tu sais, les tribunaux
elle a tranché, oui.
Mais regarde, est-ce qu'on peut reprocher à quelqu'un de faire valoir ses droits? Je pense pas. À la fin, c'est, j'espère que la preuve va être évaluée de façon objective.
Moi, je te trouve un peu gentil, Patrick. Sais-tu pourquoi? Parce que je trouve que les ressources nécessaires pour la Cour, pour être capable de démontrer qu'il y a culpabilité, quand, un, le gars évoque le fait qu'il y avait un avocat dans son bureau, donc t'as pas le droit de rien saisir. Quand, deux, lorsqu'il y a la saisie du matériel informatique, on dit t'as pas le droit de saisir le matériel informatique parce que certains des fichiers concernent ma famille. Ben oui, il y a des fichiers qui concernent ma famille sur n'importe quel ordinateur. Quand, trois, t'évoques la possibilité que tu veux pas que ce soit médiatisé en Cour suprême avant le jugement parce que tu juges que t'auras pas le droit à un jugement. Et là, ça, c'est la multiplication des étapes, ou à la fin, ça prend quoi pour accuser quelqu'un?
Ça prend de la bonne preuve.
Ben, Simonac, il y a des limites à faire de la preuve. Top. Ça impossible passant à travers tous les filtres proposés par les avocats de personnes qui sont vraisemblablement corrompues.
Écoute, moi, j'utilise le mot corrompu quand les gens ont été condamnés. Dans le cas du Parti libéral, ce qui est sûr, c'est que moralement, ce qu'ils ont toléré dans les années Charest en termes de financement, ça, pour moi, c'est une forme de corruption morale. Après ça, est-ce que c'est criminel? On va laisser les tribunaux faire leur travail, cher Luc. Il est 17h23. Et là-dessus, puisque tu es l'homme à vélo, j'espère que quelqu'un a pris une photo de toi avec ton casque tantôt. C'est toujours intéressant quand tu te présentes avec ton casque en studio. Mais je vais te parler de char parce qu'on a un concours pour ceux qui voudraient aller au Salon international de l'auto de Montréal. Et je sais que ce n'est pas ton cas, mais il y a beaucoup de voitures électriques, semble-t-il, de plus en plus. Donc, si on s'inscrit au 98.5fm.ca, mon cher Luc, on peut gagner 4 billets pour le Salon international de l'auto du 17 au 26 janvier. On félicite Kim Doucet de Saint-Jérôme qui a gagné aujourd'hui. C'est 4 billets. Tu es libéré, mon cher Ferrandez. Et après la pause, c'est le moment de la chronique de M. Pierre-Yves McSween.
À demain.